Gilbert Darrel présente Au clair de la plume sur Radio Grand Ciel. Aujourd'hui, l'invité de Au clair de la plume, votre émission littéraire à la découverte des écrivains locaux les plus talentueux, n'est autre que Patrick Ten Nguyen, qui a publié en un an deux ouvrages qui méritent assurément leur succès. Dungun en premier lieu et tout récemment Nam. Le sujet commun n'a rien, lui, de local, puisque l'action de ces deux romans se passe au Vietnam. Patrick, tout d'abord, quel lien avez-vous avec ce pays ?
Gilbert, bonjour. C'est bien Gilbert, je crois, votre prénom. C'est tout simple. En fait, je suis marié à une merveilleuse Saigonaise depuis 1979. Et puis, nous partageons notre temps entre la France et Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon, depuis 1980. On peut même dire que nous y vivons partiellement, parce que nous avons même aujourd'hui une maison de famille là-bas.
D'accord. Vos titres sont un petit peu mystérieux pour un Aurélien. Qu'est-ce que ça veut dire, Dungun ? Quel est le sujet du livre ? Et je voudrais juste vous faire une remarque à propos de la couverture de ce livre, qui, à mon avis, est la plus réussie et la plus graphique de la collection Ella.
Alors, la couverture, elle paie bien, en effet, mais moi, j'ai une petite préférence pour celle de Nam, ce qui est pas mal, donc, qui est pas mal non plus, parce que c'est moi qui l'ai fait. Dungun signifie la palanche. C'est un livre qui porte sur la période post-révolutionnaire, à partir de 1979. Il y a deux périodes. Dans la première, Khan, le père, essaie de survivre dans le Vietnam communiste de la réunification. Et puis, il s'y emploie avec beaucoup de talent, puisqu'il va participer à toutes les sales combines possibles qu'il y avait dans cette période troublée. Et puis, le fils, lui, dans la deuxième partie qui se déroule environ en 2012, va payer chèrement les fautes morales commises par le père et payer les pots cassés.
Oui, alors, la palanche, je ne suis pas certain que tout le monde sache ce que c'est.
Une palanche, c'est un moyen de transport, c'est un bout de bois sur lequel il y a deux plateaux à chaque extrémité qu'on transporte sur l'épaule.
D'accord, elle symbolise quoi alors dans votre livre ?
Dans le livre, si vous prenez les deux plateaux, si vous prenez la tige de bois, vous ajoutez le chapeau conique de la personne qui porte, ça fait immédiatement penser à une balance, à un plateau de la justice, le plateau de la justice. Et cette dame, cette marchande de rue, c'est le destin, et c'est elle qui fait pencher les plateaux d'un côté ou de l'autre.
Et Nam alors, qui sort des presses de la maison d'édition, et là, y a-t-il un rapport avec le mot Vietnam lui-même ? Aucun rapport, par contre, je suppose, avec les délicieux Nem, non ?
Alors ça, mon cher Gilbert, c'est bien ça. Là, c'est la deuxième fois qu'on fait cette vanne. Je trouve que les Vietnamiens vont bien rire. Non, je vous rassure, je n'ai pas écrit un livre de recettes de cuisine, il n'y a aucun rapport. Hein. Sérieusement, Nam, ça signifie sud en vietnamien, s'il n'y a pas d'accent. S'il y a des accents, ça signifie 5. Dans mon cas, il n'y a pas d'accent, c'est le sud. Sud, parce que ça porte sur les 20 années de la République du Vietnam, la République du Sud, et qui va de 1955 à 1975. Et puis, c'est aussi le nom de code d'un personnage récurrent du livre, qui est un mystérieux révolutionnaire tapis dans l'ombre et qui fomente et prépare l'arrivée des troupes communistes dans Saigon.
D'accord. On peut avoir une petite idée de la trame du livre, et puis vous pourrez peut-être nous lire un extrait de ce livre.
Alors, la toile de fond, c'est l'histoire du Vietnam avec un grand H. J'ai voulu faire un peu comme la caméra explore le temps pour les plus anciens de Stello Lorenzi, à bonne vieille époque de l'ERTF. Donc, j'essaye le plus proche possible de la reconstitution historique. Je pense que tout est à peu près juste. Ça a été vérifié d'ailleurs par un très bon historien du Vietnam. Et puis, j'y place mes personnages en avant, au milieu de cette période. Et puis, le lecteur va y rencontrer une grand-mère acariâtre, une jeune fille qu'on peut qualifier d'innocente, un mari volage, l'avocat, et puis il y a même un fantôme qui veille sur les vivants. Et puis il y a aussi ce mystérieux dame dont je vous ai parlé, tapis dans l'ombre, le révolutionnaire.
Un extrait, s'il vous plaît.
Les sons effrayants de l'apocalypse qui se déroule à l'extérieur montent jusqu'à la terrasse. C'est la fin d'un monde. Une foule devenue folle submerge tous les quartiers de la ville, sans but ni logique. Les volontaires à l'exil, qui ne se sont fait refouler de partout pendant la journée, continuent la nuit tombée à se cogner d'obstacle en obstacle comme des papillons nocturnes sur une baie vitrée. Des familles entières fuient à pied, en moto, en camion, en automobile. presque tout Saïgon tourne en rond. Des véhicules aux coffres et aux toits surchargés roulent sans but dans la ville assiégée, jusqu'à épuisement de la réserve d'essence. Les fuyards les abandonnent alors à la marée humaine déchaînée, perdant les maigres affaires qu'ils espéraient sauver. Circulent aussi d'inquiétants groupes armés, dépenaillés, sans pitié, qui rançonnent à tout va. Ce sont des militaires en rupture de ban, des milices autoproclamées, ou des gangsters en activité, parfois même les trois à la fois. Les pillages des magasins et des centres officiels ont déjà commencé. Tout y passe, marchandises, climatiseurs, mobilier et même les lavabos qui sont démontés. Les voitures dans les rues sont décortiquées, leurs réservoirs éventrés pour récupérer l'essence qui va bientôt venir à manquer. La bêtise aime le désordre, les salauds aussi. Les banques, fermées depuis hier, n'ont pas encore été prises pour cible. Tout le monde sait qu'elles sont vides et bien protégées. Dans les quartiers chauds, les prostituées qui ont chassé le client vainement toute la journée sont prêtes à s'offrir gratuitement la nuit venue à un éventuel protecteur qui pourrait les recueillir. Certaines sont même disposées à payer cher celui qui pourrait les inscrire sur une liste de partants pour l'étranger. On entend maintenant distinctement au loin un tonnerre superficiel et artificiel accompagné d'éclairs qui illuminent pour quelques secondes l'obscurité rougie par les nombreux insomnies. C'est le fracas des combats sporadiques qui se déroulent dans la banlieue voisine et se rapprochent inexorablement. Le couvre-feu de 20h ne va pas tarder, mais il est peu probable que ce soir il soit totalement respecté. D'ailleurs, il n'y a même plus de police pour le faire appliquer.
Merci, merci. Quels sont les auteurs que vous admirez ou vous vous sentez le plus proche? Quelles sont les qualités littéraires que voudrez vous-même avoir?
Alors pour les Vietnamiens, c'est sans hésitation Duong Thu Hung, peut-être la plus grande écrivaine vietnamienne vivante, Terre des oublis, Sanctuaire du cœur. Et puis Kim Thuy, qui écrit Joux, Vice, elle est merveilleuse et délicate. Pour les Français, tout d'abord Jean Gron, c'est mon maître posthume en écriture. La nuit indochinoise recouvre la presque intégralité de ses romans et j'avoue que c'est lui qui m'a donné envie d'écrire, sur le Vietnam notamment. Il y a aussi Patrick Modiano pour son fabuleux pédigré. Philippe Djian, Dispersez-vous, ralliez-vous, que j'admire bien qu'il m'agace un peu parfois. Je l'adore comme auteur, mais comme lecteur, franchement, des fois, c'est un peu pénible. Et puis, il y a un petit nouveau auquel je pense, et vraiment, je suis fan, je pense que ça va devenir un grand, c'est Olivier Cogent pour cette incroyable saga Le pays où vont mourir les rêves. Olivier, d'ailleurs, m'a fait un magnifique cadeau puisqu'il a écrit une superbe préface pour Nam. Elle est vraiment magnifique. Pour les qualités, j'essaie de me rapprocher du style direct d'Ougron dans la narration, avec l'expression sans concession des travers des personnages, découvrir, expliquer la petitesse des gens. Je m'applique aussi aujourd'hui dans des écrits nouveaux à essayer d'allier, de composer avec la verve de Djian, son style en rebond, et puis l'incroyable millefeuille des temps de Modiano, qui paraît vraiment évident à la lecture, mais qui est juste impossible à produire. Alors ce type est un génie. Moi j'ai mis la barre très haut, mais j'ai le droit d'essayer, hein, même si je me casse la figure.
Au moins, vous êtes passionné et passionnant, Patrick. Et justement, l'écriture pour vous, c'est juste une passion ou vous êtes encore animé d'une ambition littéraire supérieure?
Chaque fois que j'ai fait quelque chose durant toute mon existence, moi, je me suis toujours donné à fond. Donc là, je crois que c'est la même chose aujourd'hui pour l'écriture. Alors, l'écriture, je peux dire que, sans dire de bêtises, elle a changé ma vie. Je souhaite en faire ma principale activité et peut-être même ma seule occupation. Je suis entré en écriture comme on entre en religion, peut-être comme on entre en drogue aussi, parce que c'est peut-être plus proche de la drogue que de la religion. Mais enfin, je ne suis pas le seul dans ce cas. Hein. Pour moi, c'est comme une maladie, ça mange tout autour de moi. C'est même rude pour l'entourage, parce que celui qui crée phagocyte pollue la vie des autres. Heureusement, j'ai une épouse qui me comprend. Donc pour répondre clairement à votre question, oui, j'ai une folle ambition. Je ne sais pas si je la réaliserai. J'essaye simplement de devenir un auteur largement lu, et même très largement lu.
Alors, vous êtes aussi particulièrement actif sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook d'Ella Édition, comme sur votre page personnelle, Patrick Ten Nguyen, écrivain.
Ella est une jeune maison, donc elle a une diffusion encore limitée. Ça s'améliore d'ailleurs de jour en jour. Donc moi, j'ai essayé au niveau médiatique de m'appuyer, je dirais, avec acharnement sur Facebook, qui est à ce jour le réseau social préféré des grandes entreprises. Pour la sortie de Dongan, il y a à peu près un an maintenant, j'avais quelques centaines d'abonnés. Et puis il y a eu le bouche à oreille, communication permanente de ma part. Ça fait qu'aujourd'hui, sur cette page Facebook, Patrick Ten Nguyen, écrivain, puisque tel est son nom officiel, j'ai plus de 8200 abonnés. On peut dire que c'est une vraie communauté, elle est fidèle, elle me suit. Elle partage abondamment et m'encourage en permanence. Et c'est là la clé du succès médiatique sur ce réseau, je pense. J'essaye, moi, d'être toujours franc et honnête avec eux. J'essaye d'entretenir des relations amicales, au minimum cordiales, mais suivies, mais vraiment pour beaucoup amicales. J'essaye de répondre à chacun, chaque jour, sans vouloir paraître un peu nunuche, mais franchement, je leur dois tout. Et ce qui se passe, c'est juste incroyable et magique, parce que ces gens partagent véritablement mon aventure. Et à tel point qu'aujourd'hui, ça prend tellement d'ampleur que je redoute le moment où je ne pourrai plus gérer seul cette page, parce que j'y consacre 5 à 6 heures par jour. Je pense qu'à ce moment-là, la magie risque peut-être de disparaître.
D'accord. Et je sais que, je crois savoir que vous avez beaucoup de choses sous le coude que vous voudriez publier. Et vous êtes en fait un auteur très prolifique. Pourtant, vous avez une profession assez loin du monde littéraire, puisque vous maniez aussi la roulette en tant que chirurgien-dentiste à Nogent-le-Rotrou. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume et à quelle occasion ?
Bah vous remarquerez au passage que dans Dongane, il y a un dentiste à la première période et une autre à la deuxième. J'ai effectivement deux manuscrits terminés, que je remodellerai sûrement le moment venu pour l'édition. J'ai un troisième en cours, qui est la suite de NAM, et je voulais attendre un petit peu de voir comment NAM ça a été accueilli avant de continuer. Ça fait une vingtaine d'années que je rêvais d'écrire, à la manière de Jean Gron, je vous l'ai déjà expliqué. Donc pas sur l'Indochine, parce que ça, il l'a fait mieux que moi, mais sur le Vietnam post-révolutionnaire, parce que je le connais bien, je le pratique depuis 1980. Je suis entré en écriture à la mort de mes deux parents décédés, il y a 4 ans, qui sont morts à 6 mois d'intervalle. J'ai commencé par écrire un roman autobiographique sur mon relation avec eux. J'avais, comme tous les enfants, un problème à régler, des comptes à régler. Les membres de la famille ont apprécié. Donc je me suis dit, si tu continuais, si tu persévérais. Donc après, je suis parti sur Dongane et puis NAM.
D'accord. Et vous aimez, autre talent caché, particulièrement la poésie. Elle vous apporte quoi, la poésie ? Je signale qu'on peut retrouver vos poèmes en ligne sur votre page Facebook, justement. Vous avez un nombre de likes qui suffit à prouver tout l'intérêt que vous suscitez par vos poèmes. Pourquoi la poésie ?
En fait, je ne sais pas si j'ai une véritable attirance pour la poésie en tant que lecteur. Moi, je préfère l'écouter, déclamer par des récitants talentueux. Je vais être franc, j'ai aussi un problème avec ce qui se passe en ce moment à ce sujet, parce que pour moi, la poésie, c'est Baudelaire, Gérard de Nerval, Prévert, bien d'autres, mais sûrement pas Patrick Ten Nguyen. Ça, c'est dit. Vous savez, je suis d'une nature, je vais faire un néologisme, je dirais Woody Allenienne. Je suis un désespéré joyeux. Aussi, lorsque je traverse des périodes de stress, je suis envahi par un déferlement de tristesse. J'ai vraiment beaucoup de mal à canaliser, donc j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin d'exprimer. Alors, j'extériorise, c'est comme ça que sont apparus quelques textes à rime. Je les ai mis en ligne sur Facebook, parce que, bon, ben voilà, je partage quotidiennement avec mes abonnés qui sont devenus des confidents, et ce, quelle que soit mon humeur. Puis là, ça a un peu flambé, ma grande surprise, et aussi quelque part ma grande gêne, parce que ce que j'écris, ce sont juste mes émotions du moment sur lesquelles j'ai mis des mots, rien d'autre. Je n'ai aucune prétention à dire que j'écris les poèmes. Pour moi, si je le faisais, je me traiterais d'usurpateur.
Merci Patrick, à bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.